Aujourd'hui, rencontre avec dans le cadre de la 13e journée nationale des troubles 10. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Bonjour Marielle.
Bonjour.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, vous êtes en force dans nos studios aujourd'hui en direct de FM 43 pour nous parler des troubles 10, un handicap qui se développe ou en tout cas qui est de plus en plus diagnostiqué. Alors, on parlera un petit peu de ce qui est fait dans le cadre de cette 13e journée nationale des troubles 10. J'aimerais commencer par vous. Vous représentez aujourd'hui l'association Bulle de parentalité.
C'est ça.
Mais vous êtes aussi parent d'enfants avec des troubles 10.
Exactement.
Ok. Alors, en quelques mots, comment vous pourriez définir votre association ?
Alors, Bulle de parentalité, c'est une association à la base qui a été créée pour les enfants prématurés, donc qui s'appelait avant Bébé Impatient, et qui a évolué en fait au niveau tout ce qui est trouble des enfants, donc qui peut aller de l'hyperactivité, les troubles 10, tout ce qui est trouble en fait après la prématurité. Donc on s'est ouvert sur un champ beaucoup plus large.
Un champ beaucoup plus large, on parle de troubles 10. En quelques mots, quelle est la définition selon vous des troubles 10 ?
Alors, pour moi, c'est tout ce qui est troubles spécifiques du langage et des apprentissages.
Ok. Vous pourriez développer, il en existe plein de sortes, j'imagine.
Dyspraxie, donc tout ce qui est troubles du geste. Dysphasie, troubles du langage. Après, il y en a plein d'autres où moi, je suis un peu moins concernée et un peu moins compétente et où les autres personnes présentes pourront mieux vous expliquer.
Ok, parfait. Alors, est-ce que vous êtes la seule derrière cette association ?
Alors nous, on est deux dans le bureau, on n'est pas nombreuses, donc il y a moi et ma collègue donc, qui travaille avec moi et qui m'a aidée en fait, dans l'association, donc, ce qui me permet de maintenir l'association.
D'accord. Alors cette association, elle est basée sur Saint-Sicolène ?
Oui.
Mais elle agit sur tout le territoire, j'imagine ?
Alors elle agit sur la Loire, la Haute-Loire et le Nord-Ardèche, puisqu'on intervient sur les structures hospitalières de la Loire, la Haute-Loire et Nord-Ardèche, toutes les structures où il y a des services de prématurité dans nos possibilités, en fait.
Alors, justement, au quotidien, cette association fait quoi ?
Alors, au quotidien, ça va donc... nous, on distribue des pochettes à chaque naissance d'enfants prématurés. Et puis, on fait un soutien, en fait, parental. Donc là, on propose des cafés 10 aux parents, une fois par mois. Donc où les parents se réunissent et ça permet un peu un sas de décompression où chacun un peu peut décharger, donc c'est assez riche et intéressant. Et puis en fait c'est vaste, on fait aussi des confections pour les services hospitaliers en apportant de la couleur dans les hôpitaux. On a plusieurs casquettes en fait, on a la casquette prématurité et la casquette après prématurité et les troubles 10, hyperactivité, toutes ces choses-là, donc en faisant des temps de conférence, des interventions, plein de choses variées en fait.
Alors, ce que je savais pas, c'est que cette association, elle parle d'un constat de prématurité.
Exactement.
Pourquoi vous avez relié prématurité et troubles 10 ?
Parce que malheureusement, on va dire que certains enfants prématurés, il y a des conséquences ensuite à la prématurité. Et on retrouve en fait au niveau des parents qui adhèrent dans l'association, quand les enfants grandissent, on retrouve des troubles en fait spécifiques, beaucoup par exemple de troubles attentionnels, où il y a notamment des études qui sont en train de se faire sur les antécédents justement liés à la prématurité et les liens qui se font avec tout ce qui est troubles cognitifs, troubles neurodéveloppementaux, pardon. Donc on a voulu créer ce lien.
Alors attendez, vous parlez de troubles
neurodéveloppementaux.
Neurodéveloppementaux, ouais. Voilà. Je vais me faire reprendre par l'orthophoniste qui est dans nos studios. C'est quoi ?
Donc, c'est tout ce qui est trouble du développement, en fait, au niveau du cerveau, si je ne me trompe pas.
C'est ça, oui.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on appelle tous ces troubles-là, on appelle ça des troubles neurodéveloppementaux.
Ok. Donc, ça va avoir quoi comme conséquence après dans l'avenir de l'enfant ?
Au niveau, par exemple, des troubles 10, c'est des troubles des apprentissages. Donc, on s'en rend compte, en fait, au niveau de la scolarisation. Hormis quand on a un trouble dysphasique, où là, on a un trouble du langage et où là, on a une vigilance qui se fait avant l'école, puisqu'on se rend compte que l'enfant a des difficultés à parler.
Ok. Des signes qui peuvent alerter les parents qui nous écoutent, qui se disent « Ah bah ouais, mon enfant est comme ça, peut-être qu'il a un trouble 10 ?»
Là, je dirais que c'est un peu difficile parce que...
Selon votre expérience
sur mon expérience personnelle, ça a été un trouble du langage déjà, assez sévère. Et puis, un gros trouble attentionnel, un enfant qui chute beaucoup, qui est un peu rêveur, qui papillonne, qui a des difficultés à rentrer dans les apprentissages, dans la lecture. Et on voit où les efforts sont juste surhumains et où l'enfant est vite fatigué.
Ok. On va rester jusqu'à là. Je reviens vers vous tout de suite après. J'ai plein de questions à vous poser. J'aimerais qu'on ait 3 heures devant nous. Malheureusement, on n'en a qu'une, mais là, c'est déjà pas mal. Alors, vous, Anne, vous faites partie de la FF1043, c'est ça ?
C'est ça. Je fais partie de la Fédération française des 10, 43. Donc, en fait, c'est un regroupement d'associations. À la base, je suis présidente de l'association Avenir Dysphasie 43. Donc, est donc une association qui vient en soutien aux personnes porteurs de dysphasie. À part que sur le département, il n'y a pas d'association pour la dyslexie, il n'y en a pas non plus pour la dyspraxie. Donc c'est vrai que je fais un regroupement de manière à pouvoir accompagner au mieux les familles qui sont porteurs de troubles 10 sur le département, sachant qu'en général, une personne qui va avoir un trouble du langage oral va très souvent avoir des troubles associés, donc une dyslexie, une dyspraxie. Donc c'est vrai que les cas sont pas isolés.
Alors, votre rôle au quotidien ?
Mon rôle au quotidien au niveau de l'association, c'est d'accompagner les familles. On est dans un département où on a encore un énorme, énorme problème au niveau du diagnostic. On met du temps avant le diagnostic. On est dans un département qui est relativement rural, ce qui fait qu'il y a peu de professionnels. Donc c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un diagnostic. Les délais pour aller voir des professionnels de soins sont longs. Il y en a peu sur le territoire, donc les familles attendent longtemps. Donc c'est vrai que c'est relativement difficile ici d'avoir un diagnostic relativement précoce. Donc les parents se retrouvent vraiment dans un parcours du combattant et ils ont besoin d'être accompagnés, qu'on leur explique. Parce que c'est vrai que lorsqu'ils ont des retours de bilan, c'est quand même un jargon médical qu'ils ne connaissent pas, c'est difficile. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer l'après, parce qu'ils sont remplis d'appréhension, de se demander si leur enfant va avoir un avenir professionnel, une vie normale, une vie sociale. Donc voilà, donc c'est cet accompagnement-là, et également au niveau de tout ce qui va être les démarches, c'est-à-dire auprès de la maison départementale des personnes handicapées, pour monter un dossier, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés à ce niveau-là, et également au niveau de l'école, parce qu'il y a des réunions de suivi où on fait le point une fois par an avec les enseignants, les rééducateurs et les parents. Donc c'est vrai que l'association est là pour soutenir les familles à tous ces niveaux-là.
Alors, la première prise de contact, elle se fait comment ? Elle se fait par la famille qui diagnostique quelque chose, repère quelque chose, par les professionnels qui se tournent ensuite vers vous ? Comment ça se passe ?
Les cas sont très, très variés. Soit ce sont des parents qui vont m'appeler, qui vont être inquiets, qui voient que leurs enfants ont des difficultés. Donc ils font appel à moi parce qu'ils sont en difficulté et qu'ils savent pas comment faire. Donc voilà. Après, j'ai également des professionnels. J'ai de plus en plus de professionnels qui m'envoient des familles. En m'expliquant qu'il y a une famille qui aurait besoin d'être accompagnée, d'être soutenue au niveau des démarches, au niveau des explications. Parce que c'est difficile. Donc voilà, j'ai les différents domaines. L'école ne me sollicite pas trop, si ce n'est que ça m'est déjà arrivé de faire des interventions dans des écoles pour expliquer ce que c'est les troubles 10 avec des mises en situation, pour que les enfants se rendent compte de ce que peuvent vivre leurs camarades. Il faut quand même savoir que les troubles 10, c'est 10% de la population. C'est quand même énorme.
7 millions, j'ai vu sur le site de l'AF.
Donc c'est vrai que ça correspond à beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, dans une classe de 30 personnes, et potentiellement, il y a 3 enfants qui sont porteurs de troubles 10. Donc, pour pas que les moqueries, l'incompréhension s'installent, d'expliquer. Les gens ont besoin qu'on leur explique ce que c'est. Les enfants ont besoin de comprendre aussi, parce que ça peut se comprendre de manière très, très simple, par des petites mises en situation. Donc, ça permet de permettre une meilleure inclusion. C'était le thème de cette année. Ça permet une meilleure inclusion des personnes 10 dans la société.
Finalement, vous travaillez vraiment à tout niveau, autant avec les familles qu'avec les élèves dans une classe, qu'avec les professeurs.
Tout à fait.
Qu'avec les professeurs. professionnels.
Les professeurs, les professionnels, on est, voilà, le but c'est vraiment de faire quelque chose de cohérent et de global, parce que les familles vont être confrontées à des professionnels de soins, vont être confrontées à l'école et même plus tard au niveau des entreprises. Hein, ça m'est arrivé d'aller dans des entreprises pour expliquer comment on peut adapter un poste de travail de façon à pouvoir permettre à une personne qui a une reconnaissance qualité de travailleur handicapé de pouvoir travailler en adaptant tout simplement voilà, l'environnement pour qu'il puisse travailler de manière tout à fait classique.
Alors, c'est là où la question arrive. Selon vous, comment vous pourriez définir ces multiples troubles 10? Parce qu'il en existe des quantités astronomiques, j'imagine.
Alors, non seulement il en existe des multiples, mais on va dire que, par exemple, pour la dysphasie, il n'y a pas une dysphasie, il y a des dysphasies. Ah, c'est-à-dire oui. qu'il y a autant de dysphasies que de personnes dysphasiques. Hein. Les troubles 10, c'est quoi ça? Comme le disait Marlène tout à l'heure, hein, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. Les troubles neurodéveloppementaux, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement au niveau du neurodéveloppementant, donc au niveau des neurones. Donc les connexions entre les neurones au niveau du cerveau ne sont pas de manière classique. Donc ça ne veut pas dire que le cerveau est déficient. Hein. Il faut savoir que les troubles 10, on élimine la déficience intellectuelle. Une personne porteur de troubles 10 a un quotient intellectuel tout à fait normal, si ce n'est que le cerveau va fonctionner différemment. Donc il faut trouver des systèmes de compensation, des stratégies, des astuces pour pouvoir permettre au cerveau de fonctionner de manière différente pour pouvoir permettre au cerveau de fonctionner correctement. Donc c'est pour ça qu'après on fait appel à des rééducateurs qui sont là pour compenser le handicap. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. On est 10, on vit 10 et on meurt 10. On est 10 toute sa vie.
Ah ouais, super, on est dans la joie là.
Non, c'est juste une adaptation. Hein. Je veux dire, il faut voir ça plus comme une particularité que comme comme quelque chose de déficient. Hein. Lorsqu'on porte une paire de lunettes parce qu'on a une myopie par exemple, on le vit très bien. On voit très mal sans la paire de lunettes, mais avec la paire de lunettes, on voit très bien. Donc les personnes porteurs de troubles 10, à partir du moment où ils ont mis en place des stratégies de compensation, ça va très bien.
Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on en parle de plus en plus, en tout cas on en parle de la dyslexie, dyslexie par là, dyslexie, sauf que à entendre, on croit qu'il existe un seul trouble 10, la dyslexie, ce n'est pas le cas.
Ah non, pas du tout.
Vous pourriez donner quelques exemples?
Il y a six grosses catégories de troubles 10. Alors, on a la dysphasie, hein, qui est un trouble du développement du langage oral. Hein, donc, c'est-à-dire que la personne qui est dysphasique va être étrangère dans sa propre langue maternelle. C'est-à-dire que le cerveau n'automatise pas les mots. Donc, il va falloir qu'il les apprenne, qu'il ait une représentation visuelle pour ensuite les reproduire de manière correcte. Donc voilà, donc ça, c'est le premier trouble. La seconde, donc, c'est la dyslexie. Donc, effectivement, c'est un trouble du langage écrit, donc où le cerveau ne va pas être en capacité de décoder ce qu'il va lire, ou bien ne va pas être en capacité de savoir comment l'écrire. Donc c'est ce qui s'accompagne, ce qu'on appelle une dysorthographie. Donc on va dire, ah mais il fait des fautes d'orthographe, c'est pas possible, il a écrit le mot 100 fois. On pourrait l'écrire 20 000 fois que ça n'y change à rien. Le cerveau n'est pas en capacité de mémoriser l'orthographe, de mémoriser le mot.
Dysorthographique.
La dysorthographie. Ah, vous voyez, on se découvre, hein, je vous dis, 10% de la population. Donc voilà, après on a la dyspraxie, hein, qui est un trouble de la coordination et de l'automatisation du geste. Donc ça, c'est un progrès, une difficulté au niveau de la programmation. Donc le cerveau ne va pas automatiser les gestes. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des enfants qui sont maladroits. C'est juste que le geste n'est pas automatisé. Alors ça peut aller d'une manière motricité globale ou alors de manière motricité fine, hein, l'écriture. Hein, et là, on parle de dysgraphie quand c'est vraiment au niveau de l'automatisation des lettres. Hein, c'est comme si un élève était en permanence en CP en train d'apprendre à faire des E, des M, voilà. Donc c'est quelque chose de très impactant. On a la dyscalculie, hein, donc bon, comme son nom l'indique, c'est un problème au niveau des activités numériques, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion du nombre, ils n'ont pas la notion de la quantité. Donc ça, ça peut être compliqué dans la vie future, hein, parce que lorsqu'on va faire ses courses, ben, il faut prévoir un certain budget. Donc c'est là où c'est qu'on voit toutes les répercussions qu'il peut y avoir sur la vie quotidienne. Ensuite, on a ce qui est très fréquent, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On est persuadé qu'il y a l'hyperactivité. Non, on peut avoir des troubles de l'attention sans hyperactivité. Donc l'hyperactivité, effectivement, hein, c'est des gens qui n'arrivent pas à se fixer sur une tâche précise et qui ont besoin d'aller de plus en plus sur plein de tâches. Le trouble déficitaire de l'attention, c'est le cerveau qui n'est pas en capacité de traiter l'importance de l'information. C'est-à-dire que pour lui, l'information, le fait qu'on parle, par exemple, là comme on fait, si je tape ma main sur la table, pour lui, ça va être la même information. Donc il va regarder la main plutôt que d'écouter la personne qui parle. Donc on voit bien qu'au niveau scolaire et au niveau de la vie quotidienne, ça peut être relativement impactant. Et enfin, on a une dernière catégorie qui est les troubles mnésiques, donc qui est les troubles de la mémoire, où là, le cerveau a des difficultés de mémorisation soit à court terme, soit à long terme, des difficultés de mémorisation visuelle et des mémorisations auditives. Voilà les six grosses catégories. Donc effectivement, il n'y a pas que la dyslexie, même si la dyslexie a été celle qui a été le diagnostiqué le plus tôt. Le reste des troubles ont été diagnostiqués en 1990, donc c'est quand même relativement récent.
Tard,
oui, relativement tard.
Ouais, d'accord, ça je ne savais pas, je note. Alors, si on revient donc sur cette 13e journée nationale des troubles 10, le thème de cette 13e édition, c'est, vous pouvez peut-être le dire,
c'est la journée des 10, c'est
une société inclusive.
Une société inclusive pour les 10, voilà. Donc c'est vrai que c'est les 10 pour tous, c'est-à-dire que où c'est qu'ils vont pouvoir se situer dans la société. On se veut de plus en plus inclusive, hein, donc c'est vrai qu'au niveau de l'école, on parle d'inclusion, hein, on parle de plus en plus d'inclusion scolaire pour les personnes, donc ils parlent de besoins éducatifs particuliers, hein, donc c'est vraiment voilà, des personnes qui ont besoin, des besoins voilà, atypiques, en tout cas en supplémentaire par rapport aux personnes voilà, qu'on va dire normotypiques, mais la société, elle n'est pas qu'au niveau de l'école, elle est au niveau des activités sportives, hein, parce qu'effectivement, ils ont besoin aussi d'être bien à l'extérieur et également au niveau professionnel de la vie de tous les jours.
Alors, je me tourne vers Adeline, je vais faire le thème de cette 13e édition, je ne sais pas si c'est une question, je vais en faire une question. Une société inclusive pour les 10, est-ce des droits pour tous ?
Bien sûr. Donc depuis la reconnaissance des troubles 10 comme étant un handicap, hein, dans la vie scolaire et la vie future au niveau professionnel et social, c'est vraiment important que chaque enfant reçoive un diagnostic le plus tôt possible. Hein, donc ça, c'est vraiment la mission des orthophonistes d'aller vers la pose de diagnostic pour qu'après l'enfant se connaisse, puisse comprendre son fonctionnement et puisse développer des moyens de compensation pour du coup s'adapter le plus possible à son milieu. Donc,
En tant que professionnel des troubles 10, comment vous les définiriez ?
Alors, c'est un petit peu ce qui a déjà été dit. Hein, donc on a différents troubles 10.
C'est important, je trouve, d'avoir plusieurs visions.
Voilà, nous, quand on reçoit une famille, la première étape de notre travail, c'est de faire un bilan. Et du coup, suite à ce bilan, donc dans ce bilan, il va y avoir une partie où on recueille un petit peu les éléments que la famille nous donne sur le développement de l'enfant, sur le vécu scolaire, comment se passent les devoirs, etc., les liens avec l'équipe enseignante. Et ensuite, donc, on fait des épreuves de bilan pour aller vraiment poser ce diagnostic. Donc quand il s'agit d'une dyslexie, dysorthographie, on va proposer des épreuves en lecture, en orthographe, en compréhension. Quand il s'agit d'une hypothèse de dysphasie, on va vraiment creuser au niveau du développement du langage oral. On va regarder la mise en place des sons, le vocabulaire, la construction des phrases, la compréhension. Et quand on a ces éléments-là, on va pouvoir poser notre diagnostic orthophonique, expliquer à l'enfant, à sa famille, comment l'enfant fonctionne et quel va être notre parcours de soins. C'est-à-dire comment on va aider l'enfant à avancer malgré ses difficultés en mettant en place des moyens pour compenser ses difficultés et pour avancer.
Ça prend combien de temps à peu près ce diagnostic ?
Alors, c'est variable. En général, on aime bien voir la famille plusieurs fois avec des épreuves. Voilà, on se rend compte que si on propose toutes les épreuves, par exemple, à un enfant fatigable avec éventuellement un déficit de l'attention, c'est compliqué. Donc, ça se passe généralement sur plusieurs temps. Mais nous, quand on a fait passer la totalité des épreuves de notre bilan, il est parfois nécessaire de faire appel à d'autres professionnels pour avoir un bilan complémentaire. Par exemple, si on veut avoir un avis sur le fonctionnement cognitif de l'enfant, là, on va avoir besoin de l'avis d'un psychologue qui va faire passer un test psychométrique. Si on a des questions concernant le geste graphique, on peut faire, on peut demander un bilan complémentaire chez un psychomotricien, chez une ergothérapeute. De plus en plus, autour des troubles 10, on se rend compte qu'il y a un travail pluridisciplinaire, un vrai partenariat entre l'orthophoniste, éventuellement le psychologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, la famille, l'école. Voilà, on est vraiment au cœur d'un réseau où du coup, nous, on va avancer de notre côté, mais on a besoin de l'aide des autres professionnels pour faire avancer l'enfant et sa famille.
Il y a un jargon médical aussi qu'il faut connaître en tant que parent. Enfin, j'imagine qu'il doit s'acquérir au fil du temps.
Oui. Ouais. Alors, du coup, quand on fait
psychomotricienne, ergothérapeute, psychologue...
Oui. C'est ça.
Trouble dyspraxie, c'est bon, quoi.
Oui, ça fait beaucoup. Alors, quand on fait le retour de notre bilan aux familles, on essaie d'expliquer, en étant le plus clair possible, les difficultés de l'enfant, les différentes pistes que l'on va proposer dans notre travail, les éventuels bilans complémentaires. Et j'ai oublié aussi, on a pas mal de contacts avec les orthoptistes, hein, qui proposent des bilans au niveau neurovisuel, justement parce que pour pouvoir lire, on a besoin d'avoir un fonctionnement visuel correct. Donc voilà, on est vraiment au cœur de plein de professionnels qui vont pouvoir aider l'enfant et sa famille. Et c'est important que l'enfant comprenne comment il fonctionne. Donc en général, on prend un temps relativement important pour expliquer à l'enfant ses difficultés. L'idéal serait même qu'il puisse expliquer à sa classe comment lui fonctionne, quelles sont ses particularités. Et plus il va se comprendre, plus il va pouvoir avancer avec ses difficultés, ses différences, pour justement compenser.
Comme on l'a vu avec Anne, c'est relativement récent, hein, les premiers diagnostics de 1990. Est-ce que vous percevez une évolution au niveau de ces troubles ?
Alors moi, ce que je perçois, ça fait une quinzaine d'années que je travaille, je trouve qu'il y a une meilleure connaissance des troubles, une meilleure prise en charge dans les écoles. On a des contacts vraiment très très riches maintenant avec les équipes enseignantes, hein, qui sont formées de plus en plus, qui sont conscientes et qui sont demandeuses aussi de travail en partenariat.
D'accord.
Hein, donc on a un vrai travail aussi à faire, je trouve, sur sur le terrain, c'est-à-dire dans le milieu où évolue l'enfant. Donc on est souvent amené à rencontrer les enseignants, les autres professionnels, dans le but de faire avancer l'enfant le mieux possible avec ses difficultés.
Alors justement, les petits trucs, les petites clés, les petites astuces qui peuvent faire avancer l'enfant au mieux ?
Alors, chaque enfant a un parcours différent, donc c'est difficile de généraliser. Mais disons que là, maintenant, on arrive à passer des petits contrats avec les enfants, des petits objectifs. Donc, quand c'est des difficultés en lecture, eh ben, on va par exemple conseiller à l'enfant de faire des petites lectures très régulières avec un chronomètre pour voir si on peut accélérer sa vitesse de lecture pour être plus autonome et pour diminuer l'énergie que demande la lecture. On conseille aussi maintenant beaucoup aux enfants d'écouter des livres audio. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand un enfant écoute une histoire, ça fait travailler la même zone du cerveau que quand lui-même va la lire. Donc le fait d'écouter une histoire, ça prépare le cerveau de l'enfant à devenir lecteur.
Mais tout ça, personne ne nous le dit en fait.
Alors là, on s'appuie beaucoup, nous, sur les neurosciences. On a maintenant beaucoup de recherches au niveau des sciences cognitives qui vont dans ce sens. Et c'est des choses qui sont en train d'émerger. Et je pense que l'idée, c'est que petit à petit, à force d'informations, de prévention, les informations circulent. On a la chance en Haute-Loire aussi d'avoir une association de prévention et d'information en orthophonie qui s'appelle l'ALPIO. Et grâce à cette association, on intervient dans les écoles, les collèges, les lycées, les crèches pour parler du développement, du langage, de la lecture, histoire que tout le monde...
Donc, là aussi, c'est à tout niveau, autant pour les élèves que pour les professionnels.
Je trouve que plus on va travailler en lien, plus on va aider ces familles à avancer le mieux possible.
Ok. Et j'avais une question. Est-ce que les centres médicaux qu'on voit se créer avec plusieurs professionnels de la santé, est-ce que c'est lié justement à une constatation de travailler en réseau ?
Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas qu'une seule difficulté. Ils vont par exemple être dyslexiques, dysorthographiques, mais avoir des troubles au niveau psychomoteur, c'est-à-dire des troubles soit au niveau du graphisme, soit au niveau du développement moteur général. Et donc, dans ces cas-là, ces enfants qui ont besoin de plusieurs soins, ces structures ont été créées pour du coup accompagner l'enfant dans ses multiples difficultés. Voilà. Donc il existe plusieurs centres comme ça. Alors le gros souci qu'on a au niveau du territoire de la Haute-Loire, c'est qu'il y a rarement des équipes au complet parce qu'il manque ou des orthophonistes ou d'autres professionnels. Donc c'est difficile pour ces familles de savoir vers quelle structure se tourner pour apporter toute l'aide qu'elles auront besoin.
Je me tourne maintenant vers vous trois en fait. Je me dis que en tant que parent, la surcharge de prise en charge, on peut peut-être pas parler de surcharge, mais tous les soins qu'il y a à mettre en place peuvent être étouffés et surprendre, terrifier le parent. Comment gérer ça au mieux ?
Alors logiquement, on préconise deux soins pour l'enfant, donc deux professionnels, parce qu'après sinon ça fait beaucoup trop. Donc par exemple, ergothérapeute et orthophoniste. Il est clair qu'en termes d'organisation, c'est assez compliqué puisqu'il faut arriver à trouver des horaires qui coïncident avec une vie professionnelle. Donc, ça demande des fois des aménagements. Et il faut aussi, des fois on peut arriver à faire venir les professionnels aussi à l'école, au niveau de l'ergothérapie par exemple notamment, donc ce qui peut être des fois confortable. Ça demande aussi un effort financier dans le cadre du libéral, puisque hormis l'orthophonie qui est pris en charge, les autres professions d'ergothérapie, de psychomotricité, sont des professions qui sont payantes et non remboursées. Donc c'est là que rentre en ligne toutes les demandes de dossiers à la MDPH. Donc ça, Anne pourra peut-être mieux l'expliquer que moi, c'est plus sa partie.
Parce que du coup, à partir du moment où on fait une demande à la MDPH, tous ces soins peuvent être remboursés, c'est ça ? Pris en charge ?
Peuvent être. Voilà, ils vont bien insister sur le peuvent être.
Oui, c'est pas parce que le dossier est fait que...
Non, rien n'est forcément fait, mais c'est important de le savoir, puisqu'on a beaucoup de parents qui ne le savent pas et qui continuent, ou alors qui choisissent qu'un seul soin sur les deux, ou semaine sur deux, parce que d'une part, ils n'osent pas le faire. La notion de MDPH, donc c'est une demande pour handicap. Donc le mot handicap est assez compliqué à intégrer pour les parents. Faut accepter ce mot-là en fait et pouvoir arriver à le dédramatiser un petit peu. Et voilà, on a des parents en fait qui se retrouvent à baisser les soins des enfants parce que ils n'ont pas connaissance et surtout parce qu'il y a une lourdeur des dossiers à faire. Donc il y a besoin d'accompagnement et les associatifs justement peuvent être là pour aider, les services d'assistante sociale aussi. Enfin, il y a pas mal de personnes, mais il y a une méconnaissance là-dessus et je pense que c'est important qu'on le précise.
C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui dans nos studios. En tout cas, merci d'être avec nous pour dévoiler ces troubles 10. En tout cas, les mettre en lumière un petit peu, essayer d'aller plus loin dans ces troubles 10, dans ce qu'il y a à faire, ce qui est déjà fait. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais dont on ne connaît pas forcément. Alors, j'aimerais revenir un peu sur cette 13e journée nationale des 10. Ça vient de quelle idée ?
La 13e journée nationale des 10, en fait, la Fédération française des 10 a voulu faire de manière symbolique une journée nationale parce que les troubles 10 donc, sont de plus en plus diagnostiqués depuis la loi du 11 février 2005 qui sont reconnus comme un handicap. Donc on voulait absolument au niveau national pouvoir le marquer, faire des journées d'information parce que comme on vous le disait il y a deux minutes, les personnes sont un petit peu dans un parcours du combattant, ne savent pas trop. Donc cette journée, elle se veut aux alentours du 10-10, c'est pas pour rien. Donc voilà, et toutes les années, donc en fait on fait un thème national qui va être lié dans chaque département pour pouvoir donner une information. Donc cette information, elle est pour les parents, bien évidemment, mais elle est également pour les professionnels de soins, pour lesquels, avec qui on peut échanger, et les enseignants. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Adeline, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire à tous les niveaux, et il faut qu'il y ait une cohésion de toutes les parties pour que la personne qui est porteur de troubles 10 puisse avancer. Donc, c'est une idée qui a émergé au niveau national, de manière à pouvoir, dans chaque département, on puisse informer. On a des journées nationales de on a la journée nationale de la femme. Donc, on voulait une journée nationale des 10 pour pouvoir expliquer au grand public ce que c'était que les troubles 10. Voilà.
Donc, autant les concernés que les pas concernés du tout.
Tout à fait. C'est vraiment une information pour qu'on puisse avoir une meilleure connaissance de ces troubles, parce que soit la personne est porteur de troubles 10 et va devoir vivre dans la société de tous les jours, et les gens qui vivent dans la société de tous les jours, donc on va dire les 90% vont vivre avec des personnes 10. Donc ça fait partie des particularités. Donc pour pouvoir bien vivre, il faut comprendre. Donc pour pouvoir comprendre, il faut expliquer, donc informer.
Donc informé, c'est ce que vous faites avec cette 13e journée nationale des troubles 10. Alors, on est sur le territoire altiligérien, on a Bulle de Parentalité et FF1043 avec nous pour nous parler de cette journée en particulier, puisque vous mettez en place diverses actions pour informer le tout public, autant les concernés que les pas concernés, c'est ça ?
C'est ça. Et on va dire que c'est une première en fait sur la Haute-Loire, puisque avant on n'avait pas de journée. Alors, je vois émerger aussi beaucoup de demandes au niveau du lieu. En fait, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, et le Puy-en-Velay, et Saint-Jean.
D'accord.
Alors, le but, c'est que...
Voilà,
justement. Le but, c'est qu'on va essayer chaque année d'itinérer sur une commune, en fait, pour pouvoir toucher, ce territoire qui est un peu, comme Anne disait, qui est un peu large, un peu vaste. Et essayer de toucher tout le monde en fait. Donc cette année c'est Monistrol, mais peut-être que l'année prochaine ça sera Saint-Jean ou le Puy, Et voilà, on va essayer de laisser personne de côté, mais on est obligé de choisir un lieu d'abord, et voilà, on a choisi Monistrol.
Bon, alors voilà, vous avez choisi Monistrol, c'était ma prochaine question. Qui avez-vous choisi ? Vous avez choisi Monistrol, quand ça ?
C'est pas si vieux, parce que ça s'est fait un peu en dernière minute, parce que nous on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, on va dire il y a 3-4 mois. Et la volonté, c'était de travailler ensemble, en fait, en tant qu'associatif, puisqu'on se complète. Et le but, en fait, c'est que, enfin, de se compléter et de pouvoir être plus fort. Parce que quand chacun travaille de son côté, des fois, c'est un peu compliqué. Et je trouve qu'on y trouve bien notre compte là-dessus. On peut mieux aider, je pense.
Oui, Monistrol, pourquoi ? Parce qu'il y a des rééducateurs qui sont également sur Monistrol. Hein. On a des rééducateurs également au Dix-Saint-Jean. Donc, c'est vrai que cette année, on l'a voulu sur Monistrol, parce que voilà, on était en contact direct avec les rééducateurs. Ben voilà, des familles qu'on connaît, donc ce sont des rééducateurs qu'on a pu solliciter tout de suite, hein. Comme elle vous disait, hein, ça fait que quelques mois qu'on s'est mis en concertation. La journée nationale des 10, on n'en faisait pas avant dans le département, parce qu'avant il n'y avait pas la Fédération française des 10, hein. Ça D'accord. fait pas très très longtemps que je suis sur le département. Et les premières années où je suis arrivée, il y avait une telle urgence de demande des familles d'aide, que...
Il n'y avait pas le temps de s'occuper.
Voilà, moi toute seule, je ne peux pas être de partout, donc j'ai préféré prioriser l'accompagnement des familles. Et c'est Marlène qui fait ce travail depuis plusieurs années, elle, sur ce département-là, et qui m'a dit « ça serait peut-être bien qu'on puisse faire cette manifestation ». Et du coup, voilà, on a pris les bras levés. Et donc Marlène a réussi à trouver Monistrol, qui a accepté de nous accueillir cette année. Effectivement, l'année prochaine, ça sera peut-être le Puy ou Brioude. Voilà, c'est vrai que le département est relativement vaste. On aimerait malgré tout aussi que ça concerne et qu'on fasse intervenir des professionnels de soins de la localité ou des alentours de la localité, de manière à ce qu'il y ait une prise de contact avec les familles. C'est ce qui est important. Donc l'inspection académique a également été avertie de notre manifestation. Cette année, on l'a axée sur les soins, parce que les troubles 10, comme tout à l'heure Adeline le disait, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Mais s'il fallait qu'on prenne le temps et qu'on laisse le temps pour bien expliquer les choses, il nous aurait fallu 2 jours entiers pour que chacun puisse intervenir. Donc cette année, on l'a axée également sur un thème précis, qui est l'accès aux soins.
Alors, l'accès aux soins, c'est à Monistrol-sur-Loire dans le cadre de la 13e journée nationale des 10. Ça se passe le samedi 12 octobre, c'est ça ?
C'est ça.
Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans ce cadre-là ?
Alors, on va avoir des temps d'intervention de professionnels. Donc, on a un programme assez riche. Donc, on a une intervention de Marlène Vabre, qui est musicothérapeute, donc sur le lien entre la musique et les troubles 10. Alors, les horaires, je ne les ai plus en tête.
C'est à 14h.
Ouais, je pense que je
les connais.
Bon. Du coup, je vais te laisser.
Vous allez vous compléter.
On va se compléter. Hein. C'est vrai que les troubles 10, on parle, on a beaucoup parlé de soins classiques, orthophonie, ergothérapie, psychomotricité. Marlène avait voulu introduire avec de la musicothérapie pour expliquer qu'on a également un travail à faire, on n'en a pas parlé tout à l'heure, autour de l'estime de soi. Les enfants qui sont porteurs de troubles 10 ont une pleine conscience de leurs différences, de leurs particularités, c'est difficile. Et on a besoin de leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses. Donc la musicothérapie, on se rend compte qu'ils ont une conscience au niveau de la musique qui leur permet de se développer. Donc c'est vrai qu'il y avait une première partie au niveau de la musicothérapie, c'est à 14h. On a donné un temps de parole de 30 minutes, c'est-à-dire 20 minutes d'intervention et 10 minutes de questions-réponses, parce que les parents ont plein de questions, donc ils auront plein de questions à poser ce jour-là. Après, on a donc une orthophoniste qui va intervenir. Donc, cette année, c'est Madame Bonnefoy-Gagne qui est sur Issinjau, qui va faire une présentation des troubles 10. Je sais qu'elle avait contacté les autres orthophonistes d'Issinjau pour leur expliquer, pour voir si éventuellement d'autres orthophonistes pouvaient intervenir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Adeline avec nous. Il vient expliquer tout ce parcours de soins. À la suite de ça, donc on aura Monsieur Vostajac, qui est psychomotricien, qui va expliquer tout ce qui va être trouble 10. Donc c'est en particulier la dyspraxie et les autres difficultés d'ordre motrice global. Et ça c'est à C'est un peu plus tard. Voilà, c'est si, à 15h.
Si je peux me permettre, une définition du psychomotricien, ça peut être assez flou en fait.
Le psychomotricien, donc, il va aider au développement moteur de manière globale. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui a une dyspraxie, donc c'est une non-automatisation du geste, il n'a pas la notion de son corps. C'est-à-dire qu'il n'a pas la notion des distances, il n'a pas la notion de l'espace, il n'a pas la notion de la manipulation des bras, des jambes. Donc, c'est quelqu'un qu'on va dire qui est un peu gauche. C'est ce qu'on disait avant, en tout cas. Et donc, du coup, le psychomotricien, donc, il va faire un apport. Alors, au démarrage, il parlait de psycho, mais ce n'est pas de la psycho, voilà, de la psychologie. Hein. C'est vraiment un apport au niveau moteur. Donc, il va apprendre à ce que le corps ait la notion de ses jambes, d'où se situent les bras, de comment se comparer au niveau de l'espace, avoir la notion. Donc ça, il va faire ça à travers des exercices hein, de différents niveaux. Donc c'est vrai que ça permet vraiment aux jeunes, hein, ça concerne vraiment les plus jeunes, hein, au démarrage des prises en charge, hein, donc dès la maternelle, ça permet d'avoir une meilleure aisance au niveau moteur et au niveau automatisation. Il va travailler alors. On n'automatise pas, hein, vu qu'on disait que c'est un handicap, mais on va juste apprendre au cerveau à réfléchir plus vite. Oui. C'est juste ça.
Autrement. Vous parliez de pleine conscience. Est-ce que là, c'est une pleine conscience du corps par le psychomotricien ?
Oui, il va avoir une meilleure maîtrise, en tout cas. Donc, voilà, le psychomotricien est là pour apporter une meilleure maîtrise et donc trouver des stratégies pour pouvoir, justement, mieux gérer l'environnement, l'espace et son propre corps.
À 15h30, donc le samedi 12 octobre, dans le cadre de la 13e journée dédiée à Monistrol-sur-Loire, vous avez des ergothérapeutes qui viendront témoigner, en tout cas apporter leur savoir.
Oui, voilà. Donc donc elles sont toutes les deux de Monistrol, hein, mais comme le disait tout à l'heure Marlène, elles peuvent également intervenir et à l'école ou au domicile en fonction des besoins. Donc ça s'adresse donc également donc aux personnes qui ont des difficultés au niveau motrice, un peu plus de la motricité fine, hein, tout ce qui va être dysgraphie, mais également le trouble de l'attention, parce que le trouble de l'attention, on a une non-gestion de l'information, et donc l'ergothérapeute va apprendre à organiser son travail, à organiser son espace, à organiser sa façon de faire et à apprendre à être plus attentif. Donc l'ergothérapeute travaille sur ces différents-là. Elle va aider donc à automatiser un peu plus le geste, hein, par des stratégies de compensation. Et très très souvent derrière, il y a pour les personnes qui ont des difficultés motrices au niveau du geste, l'ordinateur. Alors, ce n'est pas là pour remplacer l'écriture, c'est là pour éviter l'épuisement. Alors, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Les personnes 10, elles sont très fatigables parce que vu que ce n'est pas automatique, on doit se fatiguer. Permanent. C'est des efforts. Hein. On estime qu'une personne dyslexique, hein, qui a un trouble de la lecture, son énergie qu'elle doit développer est multipliée par 3. Donc, ça veut dire qu'elle, pour vous, une heure, elle, ça lui représente 3 heures d'effort. Donc, une journée d'école, hein, de 6 heures, eh ben, c'est comme si elle en avait fait du coup 18. Vous imaginez l'épuisement que cela peut représenter. Donc, il faut trouver des manières d'alléger. Donc, si le but, c'est pas d'évaluer, par exemple, à l'école, l'écriture, eh ben, on tape sur un ordinateur. Hein, il y a quelque chose de merveilleux, il y a des lettres. Hein, et le but, c'est de donner une information. Donc, qu'on l'écrive avec la main ou qu'on le tape sur un ordinateur, le but, c'est d'écrire ce que l'on pense.
C'est pour ça qu'au début, aux premières étapes du diagnostic, ces deux soins, ergothérapie et orthophonie, sont vraiment primordiaux, en fait.
Non, pas forcément. Dépend vraiment des besoins de l'enfant et de l'orientation des professionnels. Hein, c'est pas ergothérapie où ça peut être psychomotricité orthophonie, ça peut être que orthophonie, c'est vraiment
en fonction des difficultés de chaque enfant.
Exactement.
Okay. J'y vois plus clair.
Je voulais juste rajouter que par rapport au travail fait en ergothérapie, on a de nombreux outils techniques à ce jour qui permettent vraiment aux enfants de compenser leurs difficultés.
Tout à fait.
Donc l'ordinateur, des logiciels de reconnaissance vocale, c'est-à-dire des logiciels qui vont permettre à l'enfant en difficulté d'écriture ou de structuration de l'écrit, de parler. Et donc, ça va écrire ce qu'il dit. Donc, par exemple, pour faire une production d'écrit, une rédaction, ça va être un formidable outil de compensation. On a aussi des outils comme les souris scanners. Ça permet à l'enfant qui est en difficulté de lecture de scanner le texte qu'il aura du mal à lire. Et ça va lui être lu, par exemple, dans un casque. Et ça va lui permettre de travailler à la même vitesse que ses camarades en classe. Et ça va le soulager sur l'effort de lecture.
Ouais. Donc tous ces outils-là sont autant importants pour les enseignants que pour les professionnels, voilà, que pour l'enfant, que pour les
parents. Et ça, c'est vraiment un travail qui est fait avec les ergothérapeutes pour sélectionner les outils adaptés à l'enfant dans son parcours de développement et par rapport à ses difficultés, et pour apprendre aussi à gérer ces outils, parce que ce n'est pas parce qu'on met un ordinateur dans les mains d'un enfant qu'il va être capable de le maîtriser et de l'utiliser sans se fatiguer. Donc il y a aussi un vrai travail d'apprentissage pour être autonome grâce à tous ces outils.
Donc pas d'inquiétude à avoir, les professionnels sont là pour vous aider et des outils sont là pour appuyer les troubles 10. Alors ensuite on passe à 16h pour la 13e journée nationale des 10 à Monistrol-sur-Loire le 12 octobre. À 16h on a une présentation du carnet de soins numériques.
Exactement, voilà. Avec Compilio. Donc, qui a créé donc, le carnet de soins numériques. Donc, il va le présenter un petit peu aux parents. Ça facilite les démarches, en fait, et ça simplifie sous une seule, sous un seul document, en fait, numérique. Voilà.
Donc, c'est un sujet qui est vraiment très actuel, en fait, parce qu'on en parle. Il y avait un article dans le journal début de semaine dernière. C'est vraiment à l'ordre du jour.
C'est à l'ordre du jour. Et puis, aujourd'hui, c'est le 10. Donc, on fait ça. La journée nationale des 10, c'est le 10 octobre. Donc, ça tombe super bien de faire ce temps d'échange aujourd'hui.
Un 10 octobre.
Voilà.
OK. Bah, 16h15, c'est vous.
Oui, c'est moi. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, les familles ont vraiment un parcours du combattant. Hein, Marlène l'a dit. C'est compliqué. C'est long. Donc, du coup, ils ont ce qu'on va dire, une première partie, donc, qui est les soins, hein, où là, on a effectivement tous les professionnels qui sont intervenus avant, donc qui expliquent comment ils peuvent accompagner l'enfant. Et Marlène, tout à l'heure, expliquait que seule l'orthophonie est remboursée. Alors, on a également l'orthopsie, hein, qui est remboursée.
Là, c'est quoi l'orthopsie ?
L'orthopsie, en fait, alors ça ne veut pas dire que l'œil voit mal, c'est-à-dire que l'œil ne donne pas la bonne information au cerveau. C'est-à-dire que l'œil, au lieu de dire, nous, on va lire de gauche à droite, ligne par ligne, voilà. Et l'œil, en fait, va avoir, lorsqu'il va faire une recherche, il va lire en haut à gauche, puis après en bas à droite, et puis au milieu. Donc, on doit apprendre l'œil à avoir une logique de lecture et une logique de gestion également dans l'espace. Donc, ça, c'est souvent associé donc à des dyspraxies visuospatiales, et ça permet aussi à l'œil de travailler lorsqu'il est en lecture sur la fenêtre de lecture, c'est-à-dire que pour pouvoir lire correctement une syllabe, il faut que l'œil regarde la syllabe entière. Sinon, il ne peut pas identifier un son par rapport à une syllabe. Donc, c'est tout un travail que l'orthoptiste peut réaliser pour permettre. Donc, il fait faire des exercices pour l'œil, pour apprendre à l'œil à être efficace et à donner la bonne information au cerveau pour pouvoir lire derrière.
Toutes ces informations, tout ce programme de cette merveilleuse journée le 12 octobre, on peut retrouver tout ça où ?
Alors, sur Internet, sur la page Facebook de l'association Bulle de Parentalité. Après, on a fait des articles au niveau de la presse, donc il y a une diffusion qui s'est faite au niveau des écoles. Si je peux rajouter, on a aussi des stands associatifs qui seront présents.
D'accord.
Donc, notamment TDAH, Partout Pareil. L'AFEP, donc l'association d'enfants au potentiel, et on aura aussi la librairie donc Alpha Bureau qui sera présente aussi, donc ça permet d'avoir quelque chose de complet. Et on a aussi vendredi, un ciné-débat. Je le précise parce que c'est important aussi.
Donc, le vendredi 11 octobre,
c'est ça.
Au Ciné-Étoile
à Sainte-Sigolène. Voilà, donc la durée du film, elle est de 48 minutes. Le film a été réalisé par une association qui est sur Dieppe, donc qui s'appelle GPS D10, pardon. Et le film s'appelle Ma Différence. Donc c'est un film qui met en évidence des familles en situation, en fait, de troubles 10, du diagnostic à la vie, en fait. Donc c'est vraiment un échange très intéressant.
Donc, vous nous amenez quelque chose de vraiment complet sur ce territoire altigérien, c'est-à-dire qu'on va traiter tout le côté des troubles 10, en tout cas la plupart.
On essaye.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous dans nos studios de FM 43 en direct. Il est 8h47. Je vais vous laisser partir, malheureusement, je serais bien restée avec vous. Une dernière question, Adeline, pour vous. Le meilleur conseil à donner à un parent qui est dans la difficulté, qui a peut-être repéré une difficulté?
Alors, ce que je pourrais conseiller, c'est que si un parent a des questions, est en questionnement, a des doutes, est en souffrance, bah, il ne faut pas hésiter à consulter, c'est-à-dire passer par son médecin traitant parce qu'on est une profession où on a besoin d'une ordonnance d'un médecin. Voilà. Et il ne faut pas hésiter non plus à prendre son téléphone pour aller se renseigner. Il ne faut pas garder des questions, des doutes. Hein, il faut vraiment aller chercher les informations. Donc, il nous arrive parfois de recevoir des familles voilà, avec qui on fait un bilan et on se rend compte qu'il n'y a pas de trouble 10, mais en tout cas, on va donner des conseils sur le développement de la lecture, etc., en lien avec la scolarité. Donc voilà, il n'y a pas de bilan pour rien. Je crois que vraiment, quand les parents ont des doutes et des questionnements, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner, à les consulter pour que du coup, les parents puissent accompagner leur enfant au mieux dans sa scolarité.
Donc la moindre question, le moindre doute, ne pas hésiter à en parler.
Il me semble que c'est important.
Il vaut mieux que ce soit fait pour avoir aucun diagnostic derrière que pas fait du tout.
Alors, le diagnostic, du coup, sera posé, mais ce ne sera pas forcément un trouble 10. Voilà.
OK. Pour vous, pareil, bulle de parentalité, le meilleur conseil que vous pourriez donner à un parent qui repère une difficulté chez son enfant ?
Ben, un petit peu comme Adeline, et puis bon, que les associatifs existent aussi, parce que des fois, il y a des délais d'attente qui sont assez longs, donc déjà, il ne faut pas se décourager. Je pense notamment à l'orthophonie, hein, où on a des délais d'attente assez longs, mais faut essayer de maintenir, et puis peut-être s'appuyer sur les associatifs qui peuvent jouer le relais au niveau soutien un petit peu à la parentalité.
On peut vous contacter par mail, j'imagine, si on a des questions, si on a des interrogations.
Oui, voilà, par mail, il n'y a pas de souci. Ouais.
Vous avez votre adresse ?
Alors, c'est bulle de parentalité, tout attaché, sans accent, @gmail.com.
Donc, n'hésitez pas à les contacter pour toute question, toute interrogation, toute suspicion, vraiment, ne pas hésiter. Et donc, même question pour vous.
Et je pense que voilà, le mot le plus important, effectivement, c'est de parler. Il ne faut pas rester dans son coin. Parce que lorsqu'on est seul, le combat est très, très difficile. On a l'impression de vivre quelque chose que les autres ne vivent pas. Alors qu'on est nombreux à vivre la même chose, à vivre ce parcours du combattant. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans son coin. Il ne faut pas hésiter à en parler. Ça fait du bien d'en parler parce qu'on comprend. Hein. On en avait parlé tout à l'heure. Le fait de comprendre, ça permet d'évacuer tout stress. Un enfant à qui on pose un diagnostic, pour lui, c'est une vraie délivrance. C'est une délivrance parce qu'il dit « je ne suis pas bête ». Non, tu n'es pas bête, ton cerveau fonctionne différemment. Donc, il ne faut pas rester, il faut pas rester seul, il ne faut pas hésiter donc, effectivement à contacter les associations parce que de par leur expérience, hein, elles ont toutes leur propre vécu, elles peuvent donner des conseils, échanger, écouter. Et rien que ça, ça permet de se sentir moins seul et de se dire que l'avenir, il est beau parce que derrière, les 10, hein, lorsque les rééducations sont mises en place, ils ont tout à fait leur place dans la société, hein, vu qu'on parlait de société inclusive. Mmh. Ils ont leur place et ils y vivent bien. Donc, l'avenir, il est positif. Il faut juste ne pas batailler trop tôt, mais ils y vivent très, très.
Donc, c'est pas parce que 10% de la population ont des troubles 10, ce qui représente 7 millions, qu'il faut se décourager, il faut oser en parler. Oui. Vous êtes là pour ça, le milieu associatif, autant que le milieu professionnel, le milieu enseignant, ne pas hésiter à en parler. C'était une émission un peu spéciale dans le cadre de cette 13e journée nationale des 10, fait un 10 octobre. C'est parfait. Merci d'avoir été avec nous dans nos studios.
Merci.
8h51 sur FM 43, on donne le relais aux pauses musicales.
C'était Rencontre avec,
présenté par Au Point du Jour,
le complexe multisport unique en Haute-Loire,
situé à Saint-Pierre-Hénac, zone artisanale de Lachan.
Ouvert 7 jours sur 7 à partir de 10h.
Réservation et renseignements au 04 71 00 81 86 ou sur aupointdujour.com.
Toutes vos informations locales sur FM 43 en partenariat avec le journal La Tribune Le Progrès.
À la une de l'actualité, ce jeudi 10 octobre 2019, en Haute-Loire, on aborde le handicap. Une journée pour comprendre et appréhender les 10 dysphasie, dyslexie, dyspraxie pour la première fois dans tout le département. Une soirée et une journée seront dédiées aux troubles 10 ouverts au grand public vendredi à Sainte-Sigolène et samedi à Monistrol-sur-Loire. Alors informer et sensibiliser avant tout, des professionnels de la santé expliqueront ce que sont ces troubles dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Et puis, explication aussi dans Rencontre avec aujourd'hui à 8h, midi et 18h sur FM 43, la radio de la Haute-Loire. On parle économie au plein volet, l'été et Infusion Pagès fêtent leurs 70 ans. Ce jeudi, Pagès Thé et Infusion organise une soirée événement à l'Hôtel Dieu pour célébrer les 7 décennies de la commercialisation de ces produits. L'occasion aussi de commémorer les 160 ans de la création de la verveine du Velay. Retour donc sur les grandes dates de cette irrésistible ascension dans votre journal La Tribune Le Progrès. Aujourd'hui, la société propose, outre sa gamme classique, une trentaine de tisanes bio sans aucun arôme artificiel, exhausteur de goût ni colorant. L'entreprise Pagès Thé et Infusion, dirigée par Olivier Thébault, est devenue majeure dans son créneau, produisant 1,2 million de sachets de thé et infusion par an. 1,2 million de thé et infusion par an. Et puis on aborde bien sûr le savoir-faire en Haute-Loire, puisque une journée mondiale du commerce riche en animation samedi pour la 3e édition de la journée du commerce de proximité de l'artisanat en Haute-Loire, l'UDP a tenu à mettre l'accent sur les métiers de l'artisanat. 3 nouvelles communes intègrent l'événement cette année. Ne pas aller chercher sur internet ce que j'ai devant ma porte, tel est l'ordre du jour. Les allées du château de Monistrol-sur-Loire avaient été colorées par un cours de Zumba en 2017 à l'occasion de cette journée du commerce riche en animation. Festivité au Puy-en-Velay, Vogue, le montage des attractions s'affine avec précision. La Tribune Le Progrès vous le détaille aujourd'hui. Samedi débute la Vogue d'automne, une des plus longues de France, jusqu'au dimanche 10 novembre inclus. Une centaine d'attractions, dont des stands de commandises et restauration, vous seront proposés. Mais en attendant l'ouverture des portes, les forains s'affairent aux préparatifs. Des nouveaux venus qui préfèrent le puits à Firminy, une attraction neuve, la Techno Power. Avec le niveau, on peaufine l'équilibre du manège pour enfants, la pomme, ou dit-on. La Vogue du Puy-en-Velay débute le samedi et dure jusqu'au dimanche 10 novembre 2019. Elle est ouverte tous les jours de 14h à 22h. A noter trois journées spéciales, lundi pour une après-midi dit réservée aux personnes en situation de handicap, vendredi 18 octobre avec l'opération étudiante un ticket acheté, un ticket gratuit, et le mercredi 6 novembre pour la journée demi-tarif. On parle économie à Craponne-sur-Arzon avec le commerce de proximité qui fait de la résistance face à la concurrence des grandes surfaces et d'internet. Le commerce de proximité joue un rôle primordial dans le maintien du tissu rural. Son dynamisme et sa variété étonnent les visiteurs. Plus de 80 commerces au sens large dans toute la commune. Craponne-sur-Arzon, le boulevard du Nord et le faubourg Constant constituent l'épine dorsale commerciale du bourg. Et puis, on commence à clôturer ce journal en parlant assainissement à Saint-Jean. Les travaux de la station d'épuration ont commencé et commencent ce lundi. Les premiers coups de pelle pour la construction de la station d'épuration d'Saint-Jean seront donnés lundi. La STEP, ou la station d'épuration des eaux usées, sortira de terre dans 18 mois. Une structure intégrée sans bruit ni odeur, tel est le but. La station d'épuration sera construite sur la rive gauche du pôle Rissel. 3,7, c'est en millions d'euros le montant des travaux de la station d'épuration, une somme subventionnée à hauteur de 70% par la commune. Et puis on aborde le conseil municipal de Bassin-Basset, puisque la rénovation de la salle Saint-Vincent a déjà commencé. Construite en 1981, la salle Saint-Vincent s'accorde une cure de jouvence. Le nouvel équipement devrait être livré mi-mars. Alors, des travaux sur les réseaux dans le bourg, une subvention aux amis de la Mure, 3 nouveaux arrêts de bus, nouvelle couleur pour Bassin-Basset.
C'était vos informations locales sur FM 43. Retrouvez ces articles et encore plus dans votre quotidien La Tribune Le Progrès.
Audit Construction, Diagnostic Immobilier vous présente la météo.
Ambiance lumineuse dans l'actu météorologique. Aujourd'hui, l'amélioration gagnera l'ensemble de la région. Un soleil voilé brillera dès ce matin. Des cumulus s'ajouteront cet après-midi, n'empêchant pas l'astre du jour de dominer dans une atmosphère lumineuse. Les thermomètres, quant à eux, afficheront des valeurs proches des chiffres de saison. Il fera 6 degrés à Craponne-sur-Arzon, 8 à Brioude, 5 à Monistrol-sur-Loire, 6 au Puy-en-Velay et au Chambon-sur-Lignon, 12 à Saint-Étienne. L'après-midi, les températures vont remonter. Il fera 15 degrés au Puy-en-Velay, 16 à Craponne-sur-Arzon et au Chambon-sur-Lignon, 17 à Brioude, 14 à Monistrol-sur-Loire et à Aix-Saint-Jean, 15 sur Saint-Étienne. En attendant, toute l'équipe de FM43 vous souhaite une très belle journée.